L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Le peuple, venu auprès de Jean-Baptiste, était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente. Chers frères et sœurs, l'attente est une caractéristique du peuple d'Israël. Dieu s'est manifesté, Dieu a fait alliance, Dieu a promis. Alors leur espérance est fondée sur l'attente des biens à venir. C'est leur unique force pour marcher, chercher, traverser le désert, se battre contre les nations qui les entourent. Ils ont une foi, une immense foi en la fidélité de Dieu, parce que Dieu exauce. Quand on dit que Jean le Baptiste, prêchait dans le désert, il ne faudrait bien sûr surtout pas s'imaginer qu'il prêchait aux sauterelles, dans un tête-à-tête. Non, bien au contraire, il y avait du monde finalement. Il y avait du monde parce que le peuple cherchait, ils avaient faim et soif. C'est pour cela que Jean-Baptiste pouvait leur répondre en annonçant la bonne nouvelle. Le ciel qui s'ouvre, la colombe qui descend du ciel, sur le Christ, la parole du Père, sont autant de signes qui vont répondre à cette attente. La conversion va se manifester par une reconnaissance, comme une juste correspondance entre l'attente du cœur des hommes de bonne volonté, et le message de Jean le Baptiste. Si Jésus demande ce baptême de repentance, alors qu'il n'en a aucun besoin, c'est que cela lui est nécessaire pour manifester son appartenance à notre humanité, mais surtout pour manifester son appartenance à la Trinité, son appartenance à cette communion d'amour qui règne entre les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Communion à laquelle, nous-mêmes, nous sommes invités par notre baptême. Chers frères et sœurs, je vous propose, dans la fraîcheur de cette chapelle, de méditer sur ces trois personnes de la Trinité. Car nous, catholiques, nous croyons, nous chrétiens, nous croyons en un Dieu, en trois personnes. Tout d'abord, regardons, contemplons le Fils, le Christ. Saint-Luc veut bien insister sur l'humanité et la divinité du Christ. Comme pour signifier son humanité, il veut montrer que Jésus s'est plié à l'exigence du baptême de Jean. Un baptême de conversion, alors Jésus va prendre le chemin de l'humilité, chemin que nous serons nous-mêmes amenés à prendre un peu plus tard à notre tour. Jésus, le Christ, lui, s'est fait péché pour nous, il s'est abaissé, pourtant lui, de condition divine, eh bien, va se baisser jusqu'au baptême de repentance. Comme le dit le chant des serviteurs dans Isaïe, avec les pécheurs, il s'est laissé recenser. Et pour insister, saint Luc, juste après le passage du baptême, va placer sa généalogie, alors que pour les autres évangélistes, c'est souvent l'inverse. Saint Luc va placer sa généalogie juste après le baptême, comme pour bien souligner que Jésus, oui, est fils de Joseph. Mais il va plus loin, il est fils de David, d'Abraham, et il va encore plus loin par rapport aux autres évangélistes, il dira qu'il est fils d'Adam, voire même fils de Dieu. Jésus, en effet, est fils d'Adam. Il sera même peut-être comme un nouvel Adam, comme aux origines. L'homme sera modelé de la glaise, alors qu'un flot monté de la terre et arrosé la surface du sol, voit-on dans la Genèse. Jésus, lui, va recevoir l'Esprit Saint. Comme jadis, Dieu va insuffler dans les narines une haleine de vie à Adam, et c'est ainsi qu'il devint un être vivant. Au même titre, Jésus, lui, devient à son tour, pas un être vivant, mais un nouvel Adam, un homme nouveau, un nouveau père du vivant, comme le prototype du nouvel homme. Ainsi, l'humanité va repartir enfin sur des nouvelles bases. Dieu va reprendre son œuvre créatrice là où elle a été blessée, comme pour mieux se la soigner. Il lui faudra encore, par la suite, passer par la mort et la résurrection pour une totale efficacité. Mais attention, ne faisons pas d'erreur, Jésus n'acquiert pas sa divinité, Jésus ne découvre pas sa mission là dans le Jourdain. Non, le Christ est, et cela depuis toute éternité. Il est le Verbe de Dieu fait chair dans le sein de la Vierge Marie. Il est le Verbe de Dieu déjà présent lors de la Genèse. Comme le dira saint Jean, au début était le Verbe, et par lui tout a été fait. Lui, le Christ, la deuxième personne de la Trinité, existe depuis toute éternité, car il est Dieu. Maintenant, posons notre regard sur l'Esprit Saint, peut-être celui qui est le moins facile à comprendre. Ce qui est étonnant, c'est que l'on retrouve quasiment finalement les mêmes récits chez les quatre évangélistes. Deux éléments apparaissent systématiquement, c'est le ciel qui s'ouvre, et puis l'Esprit de Dieu qui descend comme ou sous la forme d'une colombe. Les cieux qui s'ouvrent, c'est-à-dire finalement que la communication entre le ciel et la terre est enfin rétablie. La prière du peuple a été entendue. On peut relire Isaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux et descendais, devant ta face les montagnes seraient ébranlées, comme le feu enflamme les brindilles, comme le feu fait bouillir l'eau. » L'eau, le feu, nous y sommes. Comme le dira Jean-Baptiste, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Mais ici, l'Esprit Saint n'est pas associé à la violence du feu, mais à la douceur et la fragilité d'une colombe. Rappelons-nous, quand Dieu va visiter Élie, il ne sera pas dans l'ouragan, il ne sera pas dans le tremblement de terre, mais il sera bien là, dans la brise légère. Deuxième aspect par rapport à cette manifestation que l'on retrouve chez les quatre évangélistes, c'est donc l'Esprit de Dieu qui va descendre sous la forme de cette colombe. Une chose à retenir, c'est que concrètement, les quatre évangélistes parlent d'une colombe. Donc apparemment, on peut faire autre chose que d'y croire. Il y avait réellement, en tout cas, le signe d'une colombe. Alors le but n'est certainement pas de vouer un culte à ce bel oiseau, mais de comprendre ce que pouvait dire ce signe aux témoins de la scène. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'image de la colombe est très peu utilisée dans la Bible, alors que le feu, par exemple, ou le vent, la tempête, aurait été peut-être plus approprié. Alors il nous faut donc chercher ce que cela signifie. Les quelques lieux où nous pouvons le trouver, notamment dans le Cantique des Cantiques, « Ma colombe cachée au creux du rocher ». Saint Bernard dira de ce passage qu'elle est comme l'âme qui se cache amoureusement dans les plaies du Christ. Un autre passage peut-être plus connu, nous pouvons faire mémoire de la colombe de Noé, cette messagère très pure qui revient de l'état d'innocence après que le déluge ait purifié la terre. De la Genèse, la colombe revient vers lui sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Oui, cette colombe est le gage du pardon, le signe de la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Et pour terminer, on peut voir dans les psaumes aussi l'âme qui voudrait pouvoir voler vers le repos de Dieu. Dans le psaume 55, « Qui me donnera les ailes de la colombe, que je m'envole et me pose enfin ?» La colombe est pour les Juifs qui fréquentaient le temple l'animal destiné au sacrifice. Il est sans tache, il est d'un blanc immaculé, il ne se plaint pas lors du sacrifice, mais au contraire, va comme tendre son cou pour se faire égorger en vue de la rémission des péchés. Elle est toute appropriée pour montrer la mission de celui que Jean le Baptiste est venu reconnaître et présenter. Lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ainsi, la colombe désigne la victime expiatoire comme confirmée par la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Mais ne croyons surtout pas que l'Esprit Saint se soit manifesté uniquement au baptême de notre Seigneur. Non, la troisième personne de la Trinité est présente, elle aussi, depuis les origines. Elle descend sur les eaux du baptême comme pour rendre fécond, comme l'Esprit qui planait sur les eaux primordiales, primitives, préludant la voix créatrice de Dieu dans la Genèse. Le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Cela veut nous dire que nous sommes à l'aube d'une création nouvelle, d'une nouvelle alliance. Par ce baptême, c'est l'accomplissement, oui, aujourd'hui, l'accomplissement des prophéties. On peut penser aux prophéties d'Isaïe, car voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle, ou aussi bien Ézéchiel. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Parler de l'Esprit Saint, c'est réellement l'Esprit de Dieu. Le terme saint est approprié, porté à l'Esprit uniquement dans ce sens et nulle part ailleurs dans la Bible. C'est réellement l'Esprit de Dieu que l'on retrouve dans la Genèse. Regardons maintenant le visage du Père. Du ciel, une voix se fait entendre. « C'est toi, mon Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » C'est-à-dire que Dieu lui-même va poser la main sur son Fils pour le présenter, comme pour le reconnaître devant le peuple des croyants. Le plus étonnant, c'est que Dieu va reprendre cette parole du psaume 2, qui est normalement réservée au sacre des rois d'Israël. Et c'est vrai que le peuple d'Israël avait pris l'habitude, en l'absence de roi, de répéter ce psaume comme pour attendre, comme pour faire venir le nouveau roi, le roi des rois, le Messie de Dieu. Et tout croyant à l'époque, écoutant cette parole, pouvait très clairement lire le couronnement du Messie par Dieu lui-même. Ce baptême de Jésus, chers frères et sœurs, fait surgir beaucoup de questions en nous-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie théophanie, une vraie manifestation de Dieu, mais qui se veut pleine de signes, pleine de sens, pleine de pédagogie, un peu comme pour la transfiguration. Nous, sommes-nous en attente de quelque chose? Nous-mêmes, sommes-nous capables de voir les signes de Dieu? Notre cri ne serait-il pas un peu comme celui du jeune homme riche? « Maître, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Nous connaissons la réponse de Jésus. « Tout ce que tu as, vends-le, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Notre évangile pourrait être aussi une autre réponse. En effet, il a fallu que Jésus se soumette à notre pauvre condition en s'incarnant et en sollicitant le baptême pour pouvoir nous dire « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si vous ne passez pas par le chemin que j'emprunte moi-même, vous n'aurez pas part à mon royaume. » Alors si nous voulons, nous, la vie éternelle, si nous voulons la vie heureuse, eh bien il nous faut marcher dans les traces de Jésus, sans aucun mérite de notre part, mais en jouissant des mérites du Christ lui-même. La question que nous pouvons peut-être nous poser, c'est où en sommes-nous de notre propre baptême? Où en sommes-nous de la vie trinitaire qui habite en nous depuis que nous avons été plongés dans le baptême baptismal? Nous y avons acquis de vivre la vie même de Dieu. C'est le plus grand cadeau que nous ayons pu recevoir, et une vie surtout qui ne peut pas s'éteindre. Nous y avons aussi reçu de devenir fils et filles de Dieu. Qu'en est-il de cette grâce? Comment la faisons-nous vivre? Alors, tournons-nous vers l'autel, implorons la miséricorde de Dieu, que cette Eucharistie soit pour nous l'occasion d'offrir au Seigneur la semaine à venir. Venons à l'autel, y puiser les forces nécessaires pour continuer notre pèlerinage sur la terre. Que la Vierge Marie, notre bonne mère du ciel, nous y accompagne et nous y protège. Ouvrons-lui les portes de notre cœur, car le Seigneur nous y attend. Amen.